Le MAG de l'aménagement du logement et de la nature. Une émission en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires sur Radio Territoria.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans le MAG de l'aménagement du logement et de la nature en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. On est ravis de vous retrouver, un horaire un petit peu inhabituel, voilà, en milieu d'après-midi, 16h, normalement on est plutôt matinaux, pour une émission consacrée à la décentralisation de la police de la publicité. C'est la loi Climat et Résilience de 2021 qui prévoit cette décentralisation au 1er janvier 2024, c'est-à-dire demain, si les communes couvertes actuellement par un règlement local de publicité exerce déjà cette police, la majorité d'entre elles se verront confier cette compétence nouvelle au 1er janvier prochain. Donc ici, un petit peu moins d'un mois. Alors, il en est de même des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI, qui se verront, sous certaines conditions, transférer cette police. Quels sont le cadre et les enjeux de cette décentralisation? Que recouvre exactement la police de la publicité? Qui, du maire ou du président de l'EPCI, sera compétent? Eh bien, on va en parler avec un expert. On est ravis d'accueillir Vincent Montrieux. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Vous êtes sous-directeur de la qualité du cadre de vie, la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, la DHUP de la DGALN, au sein du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Bienvenue à vous. On est également en compagnie, comme d'habitude, d'Hélène Parmentier. Comment ça va, Hélène?
Très bien, bonjour Fabrice.
Chargée de mission mobilisation des territoires, donc à la DGLN. On prend toutes vos questions, chers amis, en direct. N'hésitez pas à les poser tout au long de cette émission. Voilà, c'est une émission interactive. On démarre tout de suite, Vincent Montrieux, avec vous. Est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs ce qu'est la police de la publicité? Quelles sont exactement les missions qu'elle recouvre?
Alors oui, tout à fait. Donc la réglementation relative à la publicité aux enseignes et aux préenseignes répond à un objectif de protection du cadre de vie, important pour l'attractivité des territoires. Alors on parle ici de la publicité qui est extérieure et qui est visible d'une voie ouverte à la circulation publique. Donc on ne parle pas par exemple de la publicité qui va être à l'intérieur d'un centre commercial.
D'accord.
Cette réglementation est prévue par le Code de l'environnement. Elle va encadrer les lieux où on peut implanter ou non des publicités. Donc par exemple, la publicité est interdite en dehors des agglomérations, ainsi que dans les secteurs patrimoniaux remarquables que sont les parcs nationaux, les parcs naturels régionaux, les sites inscrits ou classés, les monuments historiques et leurs abords. À l'intérieur des agglomérations et dans les endroits où la publicité est possible, cette réglementation va fixer les conditions d'implantation, la densité, c'est-à-dire le nombre de panneaux sur un espace donné, la surface, la hauteur et les dispositifs admis, puisque vous pouvez avoir de la publicité non lumineuse, donc une affiche 4x3 classique, mais également une publicité lumineuse, rétroéclairée, voire des publicités numériques.
Oui.
Elles peuvent être également scellées au sol. Et également, s'agissant de la publicité lumineuse, on réglemente les horaires d'extinction, notamment entre 1h et 6h du matin. En revanche, cette réglementation ne traite pas du contenu des publicités. Ce n'est pas l'objet de cette réglementation.
D'accord. Alors effectivement, c'est vrai que ces publicités, on en voit de plus en plus, s'en sont émus. C'est bien d'en parler aujourd'hui parce que certains ont pris aussi des arrêtés pour la diminuer. Donc, à qui incombe aujourd'hui cette police et qu'est-ce qui va changer au 1er janvier 2024?
Alors, actuellement, en fait, et ce jusqu'au 1er janvier 2024, les compétences en matière de police de publicité sont partagées entre le préfet de département et le maire. Elles vont relever du préfet, sauf lorsque la commune est couverte par ce qu'on appelle un règlement local de publicité. C'est un peu l'équivalent du plan local d'urbanisme, mais pour la publicité. Et dans ce cas, elles vont être exercées par le maire au nom de la commune. Et alors, dans ce cadre, exercer la police de la publicité, ça va consister à contrôler le bon respect des règles d'affichage que je viens d'évoquer et à faire cesser les infractions à la réglementation, qu'elles soient nationales ou qu'elles soient fixées localement par ce règlement local de publicité. Cette police recouvre aussi la compétence pour recevoir les déclarations préalables, ainsi que pour instruire et délivrer les autorisations préalables qui peuvent être requises dans certains cas. C'est un peu finalement la même logique qu'en matière d'urbanisme avec la délivrance d'un permis de construire. Et donc cette décentralisation de la police de la publicité, elle existe déjà, comme je vous l'ai indiqué, mais uniquement de manière volontaire, c'est-à-dire uniquement pour les communes qui avaient élaboré un règlement local de publicité.
D'accord.
Pour vous donner une idée, Les règlements locaux de publicité actuellement couvrent 2000 communes. Alors, 2000 communes sur 36 000, vous direz, ça fait pas beaucoup, mais en fait, comme c'est la plupart dans les grandes agglomérations, ça couvre près de 40% de la population française. Et dans ces communes, la police de la publicité est donc déjà exercée par le maire au nom de la commune. Et alors, ce qu'a souhaité finalement la loi Climat et Résilience, dans son article 17, c'est de renforcer le rôle des élus locaux dans la protection du cadre de vie, et donc de leur donner cette compétence. Et dorénavant, le 1er janvier 2024, les maires seront compétents pour assurer cette police, que la commune dispose déjà d'un règlement local publicité ou qu'elle n'en dispose pas. Et finalement, c'est vraiment, on est dans la même logique que ce qui avait été fait en 2010 lorsqu'on avait donné cette compétence de manière volontaire. Et puis peut-être on peut préciser également que la loi a supprimé le pouvoir de substitution du préfet en cas de carence du maire dans l'exercice de son pouvoir de police, ce qui permet de clarifier et de simplifier la compétence, c'est-à-dire qu'on a véritablement maintenant, ce sont les élus locaux qui sont compétents. Et alors, point également important, pour mutualiser les moyens et les compétences, en fait, le législateur a prévu un dispositif de transfert automatique à l'établissement, à l'EPCI, à fiscalité propre, dans les conditions et selon les modalités classiques que l'on connaît au Code général des collectivités territoriales. Alors, pour quelles raisons a-t-on fait cela ? Tout simplement car il est apparu qu'il était effectivement beaucoup plus pertinent, s'agissant d'un domaine où on a finalement peu de flux, peu de volume, mais qui peut être assez technique, de pouvoir mutualiser cette activité, de manière à ce qu'au lieu d'avoir un agent qui a X% de son temps s'en occupe dans chaque commune, on puisse avoir une mutualisation au bénéfice de l'EPCI. Et vraiment, on encourage, on va peut-être pouvoir l'aborder ensuite, mais on encourage vraiment les collectivités à profiter de cette mutualisation qui a été fléchée par le législateur, car ce sera vraiment le meilleur moyen de pouvoir mettre en œuvre de manière aisée cette nouvelle réglementation.
Bien sûr. Alors justement, est-ce que cela veut dire que sur tout le territoire, on va avoir des règlements locaux de publicité, RLP, donc qui vont être élaborés ?
Alors non, pas du tout. Finalement, le règlement local de publicité, alors évidemment, on encourage les collectivités à s'en doter, mais là aussi, je reprends un parallèle avec le Code de l'urbanisme. En matière de Code de l'urbanisme, vous avez ce qu'on appelle le Règlement national d'urbanisme, qui donne les règles de base en matière d'urbanisme, les règles nationales, et les règles qui sont prévues lorsque une collectivité ne se dote pas d'un document d'urbanisme. Mais pour autant, on ne peut qu'encourager les territoires à avoir une réflexion en matière, là, en l'espèce de publicité extérieure, et à se doter de cet outil. Cet outil va notamment et surtout leur permettre de renforcer la réglementation ou de mieux l'encadrer et d'aller plus loin en matière de contrôle. Et on sait déjà qu'un certain nombre de communes réfléchissent justement à une limitation de la publicité extérieure, puisqu'elle a un impact qui peut être considéré comme, par un grand nombre de nos concitoyens, comme dans certains cas, négative. Et donc, effectivement, l'idée, c'est de pouvoir mieux l'encadrer et donc d'utiliser ce règlement local de publicité à cette fin. Donc c'est vraiment à la main de la collectivité, de manière à s'adapter au mieux profil de chaque territoire.
Alors justement, tiens, un pas de côté, Vincent Montrieux, vous nous avez parlé justement de faire cesser aussi plus rapidement les infractions grâce à ce RLP. Quelles sont les infractions qu'on pourrait constater ?
Alors, on a deux dispositifs en fait d'infraction. On peut avoir premier aspect, on peut avoir des cas où tout simplement on a une illégalité totale, c'est-à-dire par exemple, je mets un panneau dans un champ hors agglomération. Là, on est dans l'illégalité complète.
Donc, de l'affichage sauvage, un petit peu.
C'est ça. Et alors ça, c'est de toute façon, hors agglomération, c'est interdit. Et puis, on peut avoir un mauvais respect de la réglementation. Et un non-respect, par exemple, des cadres. Je prends un exemple. Si les panneaux doivent faire maximum 8 mètres carrés et qu'on vient avec un panneau de 12 ou de 14 mètres carrés, effectivement, dans ces cas-là, on peut constater l'infraction avec deux dispositifs. Il y a des dispositifs de mise en demeure et d'astreinte, donc c'est un dispositif de nature administrative, et il y a également un dispositif de nature pénale qui est prévu.
Très bien, et bien effectivement. Et on sait que nos concitoyens sont plus sensibles aussi à cet aspect de pollution visuelle, donc on a beaucoup parlé dans les médias. Vincent Montrieux, vous nous avez parlé tout à l'heure de transfert automatique de cette police, dans certains cas, au président de l'EPCI. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Qui sera finalement compétent ? Est-ce que c'est le maire ou le président de l'EPCI ?
Alors, sur ce point, le législateur a prévu un mécanisme en deux temps. Alors, dans une logique qui est une logique finalement traditionnelle dans les cadres des transferts de compétences entre une intercommunalité et une commune, avec un transfert au 1er janvier 2024 des préfets de département vers les maires, sous réserve de l'adoption de mesures de compensation financières qui sont prévues en loi de finances, et elles sont effectivement prévues en loi de finances. Cela est actuellement, ça fait l'objet d'un article dans le cadre du projet de loi de finances. Et ensuite, un transfert automatique des pouvoirs de police de publicité des maires au président de PCI, dans les conditions fixées par le Code général des collectivités territoriales, avec finalement un transfert qui va concerner toutes les communes qui sont membres d'un EPCI qui est compétent en matière de PLU ou de règlement local de publicité, quelle que soit la taille de la commune. En revanche, il y a une spécificité pour les communes de moins de 3500 habitants,
oui,
puisque le législateur a prévu dans ce cas qu'en fait un transfert automatique pour ces communes lorsque l'EPCI n'était pas compétent en matière de PLU ou de RLP, mais à la faveur d'échanges avec l'Association des maires de France, nous avons également dans cet article du projet de loi de finances que j'évoquais à l'instant, prévu de supprimer cette disposition et de s'aligner sur le droit commun du Code général des collectivités territoriales, puisque en fait le système qui avait été proposé dans la loi Climat et résilience, c'était un système un peu dérogatoire et l'AMF tenait à ce que on puisse revenir dans le droit commun. Donc, a priori, il devrait y avoir plutôt un dispositif qui conditionne le transfert à l'EPCI à la prise de compétences règlement local de publicité.
Alors, si on comprend bien, ce transfert au président de l'EPCI, est-ce qu'il est inéluctable ou est-ce que se passe-t-il, par exemple, si un maire veut conserver la police de la publicité ?
Alors, c'est un dispositif qui est automatique, mais je dirais par défaut. C'est-à-dire que lorsque la commune ne dit rien ou ne fait rien, c'est transféré à l'EPCI. Pour autant, les maires qui souhaitent exercer eux-mêmes cette police peuvent s'opposer à ce transfert. Alors, ils vont pouvoir avoir une période transitoire pendant 6 mois, donc du 1er janvier au 1er juillet 2024, durant laquelle, en fait, tous les maires vont pouvoir s'opposer à ce transfert et indiquer au président de l'EPCI qu'ils souhaitent conserver l'exercice de la police de la publicité. Et donc, pendant cette période de 6 mois, qui est cette phase transitoire, en fait, tous les maires seront juridiquement compétents. Et par ailleurs, en dehors de cette période transitoire, les maires pourront toujours s'opposer, toujours dans les conditions prévues par le Code général des collectivités. Et donc, finalement, je rappelle ces règles, soit dans les 6 mois après l'élection d'un nouvel exécutif au niveau intercommunal, en 2026, si on prend la prochaine échéance,
oui,
soit dans un délai de 6 mois après le transfert de la compétence plan local d'urbanisme ou de la compétence règlement local de publicité à l'EPCI. Toutes ces règles paraissent un peu complexes, mais en fait, c'est le droit commun de ce qui existe dans le Code général, donc normalement, elles sont quand même assez connues des acteurs.
Alors, avec quelles conséquences ?
Alors, les conséquences, lorsqu'un maire va s'opposer au transfert, en fait, il récupère ou il conserve la compétence sur le territoire de la commune, mais pour autant, il n'empêche pas les autres communes de l'EPCI de transférer. C'est-à-dire, c'est pas un droit de veto
D'accord.
d'un maire tout seul à l'endroit des autres maires. En revanche, si un ou plusieurs maires sont opposés au transfert, le président de l'EPCI peut décider de renoncer au transfert. Il a un mois pour le faire, après la fin du délai pendant lequel les maires peuvent s'opposer. Et donc, finalement, il va y avoir ce dialogue, forcément, entre le président de l'EPCI et les maires, pour savoir lesquels souhaitent conserver la compétence, lesquels souhaitent la transférer à l'EPCI. On peut supposer que dans la majorité des cas, ça se fera évidemment en bain d'intelligence. Et je le rappelle, parce que j'y insiste vraiment, je crois vraiment que la logique, en tout cas l'intention du législateur, c'était vraiment que, au maximum, ce soit le niveau EPCI qui soit le niveau compétent, puisqu'il nous semble que c'est la bonne maille pour pouvoir gérer cette problématique.
Très bien. Concrètement, à compter du 1er juillet, hein, si on compte bien à l'issue de cette période transitoire de 6 mois, quelles vont être, Vincent Montrieux, les situations possibles ?
Alors, pour résumer, au bout des 6 mois, si aucun maire des communes membres de l'EPCI ne s'est opposé au transfert, le président de l'EPCI exercera la police de la publicité sur l'ensemble du territoire intercommunal à compter du 1er janvier 2024 à la place des maires.
D'accord.
Deuxième situation, si au moins un maire a fait valoir son opposition et si le président de l'EPCI n'a pas renoncé à l'exercice de la police, le président de l'EPCI exercera cette police sur les territoires des communes qui ne se sont pas opposées au transfert, sauf pour les maires qui, effectivement, ont fait valoir l'opposition. Et la troisième situation, si un maire a fait valoir son opposition et que le président de l'EPCI a renoncé à l'exercice de la police avant le 1er août 2024, l'ensemble des maires continueront à exercer cette police. Donc vraiment, ça implique un dialogue au niveau local entre le président de l'EPCI et l'ensemble des communes concernées.
Très bien. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur la possible modification législative que vous évoquez pour les communes de moins de 3500 habitants qui sont rattachées à un EPCI qui n'a pas la compétence plan local d'urbanisme, PLU, ou règlement local de publicité?
Alors, dans ce cas, tel qu'est actuellement rédigée la loi, donc prenons un maire d'une commune de 500 habitants, sans transfert à l'EPCI, le maire va être dessaisi automatiquement de la police de la publicité extérieure au profit du président de l'EPCI, alors même que le président de l'EPCI n'est pas compétent en matière de RLP. Et ce n'est que si l'EPCI prend la compétence PLU ou RLP que le maire retrouve son droit d'opposition. Et donc, comme c'est un dispositif qui est assez dérogatoire par rapport au droit commun du Code général des collectivités territoriales, effectivement, il y a une modification législative qui est proposée, où on reviendrait à la logique, le pouvoir de police suit la compétence de fond. C'est-à-dire que dans ces cas-là, si l'EPCI n'a pas la compétence PLU ou RLP, le maire reste détenteur du pouvoir de police, indépendamment de la taille de la commune. Pour autant, il peut y avoir des accords et des bons procédés, c'est-à-dire que la circonstance que le maire conserve la compétence de police ne lui interdit pas pour autant, par exemple, de prévoir que ce soit l'EPCI qui réalise l'instruction des dossiers, sans préjudice ensuite qu'une fois le dossier instruit, on renvoie le dossier au maire et le maire va signer ou pas l'autorisation délivrée. Donc on peut prévoir en fait différentes modalités d'organisation.
On vient à l'État, justement, quels seront le rôle et la place de l'État dans cette nouvelle configuration?
Alors, on va distinguer, donc, avant 2024, les services de l'État donc, continuent à réaliser des contrôles sur le terrain et à sanctionner les infractions pour toutes les communes qui ne sont pas couvertes par un règlement local d'urbanisme.
Oui, donc encore pendant 3 semaines, si je comprends.
Voilà, pendant 3 semaines, pour les 34 000 communes qui ne sont pas couvertes par un règlement local d'urbanisme. En revanche, les 2 000 communes qui sont couvertes par un RLP, les services de l'État n'exercent déjà plus de compétences. À partir de 2024, l'État sera toujours présent, mais il le sera différemment.
Oui.
Il ne jouera plus de rôle dans la police de la publicité, mais les agents qui seront toujours en DDT auront pour mission la promotion et le suivi de l'élaboration des règlements locaux de publicité, l'explicitation de la réglementation nationale, puisque évidemment on continue à poursuivre cette politique publique qui est très importante à nos yeux pour la protection du cadre de vie, et parfois un appui aux préfectures pour le contrôle de légalité sur les autorisations préfectorables ou sur les règlements locaux de publicité. Donc en fait, finalement, l'État aura toujours un rôle de conseil et d'accompagnement, de la même manière qu'on a ce rôle de conseil et d'accompagnement en matière d'urbanisme. C'est-à-dire qu'en matière d'urbanisme, certes, on a encore un petit pourcentage de communes qui sont au règlement national d'urbanisme pour lequel c'est l'État qui instruit les autorisations d'urbanisme, mais dans 90% du territoire, l'État accompagne les collectivités dans l'évolution de leurs documents d'urbanisme, l'État exerce le contrôle de légalité, évidemment gère la politique, enfin les évolutions de réglementation nationale les explicites, mais ce sont les collectivités qui sont compétentes au quotidien. Donc c'est vraiment similaire à une politique décentralisée de longue date comme l'est celle de l'urbanisme.
On va parler, Vincent Montreuil, si vous voulez bien, du nerf de la guerre, justement. Quelles sont les mesures de compensation pour les collectivités?
Alors oui, effectivement, sujet important. Donc les collectivités vont bénéficier d'une compensation financière. Il s'agit d'un versement pérenne, sans remise en cause ultérieure de son bénéfice ou de son montant, et donc il n'y a pas de transfert d'agent. Alors pourquoi il n'y aura pas de transfert d'agent, me direz-vous ? C'est que, en fait, nous n'avions que des fractions d'emploi, oui. Puisque, en fait, actuellement, sur le territoire, il y a 170 agents qui exerçaient ces fonctions de police qui sont transférées. Alors ça correspond en cumulé à 56,44 ETP, mais vous comprendrez bien que c'est compliqué de diviser 56,44 de ETP pour toutes les communes. Et en plus, on avait dans la grande majorité des cas des agents qui n'exerçaient cette activité que de manière partielle, compte tenu de leur plan de charge général. D'où cette logique de compensation. De compensation financière avec effectivement le coût des fractions d'emploi en ETP correspondant aux agents, enfin à l'équivalent financier de ce que coûterait un agent qui exercerait la même mission, et ce qu'on appelle les coûts du sac à dos. Alors les coûts du sac à dos, selon la terminologie des transferts de compétences, ce sont les dépenses de fonctionnement liées aux parties de services transférées. Et donc, ça fait un paquet global, et donc un montant total du droit à compensation que nous avons inscrit en loi de finances de 2,5 millions d'euros.
Voilà. 2,5 millions d'euros, donc tout inclus avec ces coûts sac à dos.
Et alors peut-être, pour préciser un peu les modalités de calcul de compensation, elles feront l'objet d'une concertation avec la commission consultative sur l'évaluation des charges, avec un montant définitif qui sera arrêté en 2025. Et on adosse cette compensation au concours particulier de la dotation générale de décentralisation, qu'on connaît plus sous le nom de la DGD, qui est dédiée au financement des différents types de documents d'urbanisme, dont on élargit un peu le périmètre aux règlements locaux de publicité. Alors, pourquoi ce choix ? Le premier, c'est d'éviter un saupoudrage de crédit, car donner quelques dizaines d'euros à chaque commune aurait eu un intérêt limité. Et d'autre part, rendre bénéficiaires les collectivités, les groupements compétents en matière de police de la publicité. Donc le droit à compensation sera versé au moment de l'élaboration, de la modification d'un document. Alors ça peut être un document d'urbanisme, ça peut être un règlement local de publicité. Voilà un petit peu les choix qui ont été faits par la Direction Générale des Collectivités locale, effectivement, qui assure la mise en œuvre de ces dispositifs de compensation.
Vincent Montreuil, pour ces changements, à partir du 1er janvier, il va falloir faire preuve, évidemment, comme d'habitude, de pédagogie. Quelles sont les modalités d'information et d'accompagnement que vous avez prévues, notamment pour les collectivités,
Alors, au-delà de l'émission que nous avons aujourd'hui, qui peut également être une modalité d'information et d'accompagnement, bien évidemment, nous allons, en premier lieu, nous actualisons le guide pratique sur la réglementation de la publicité extérieure. C'était un guide qui datait de 2012 ou 2014, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, qui avait une dizaine d'années, et donc, effectivement, qui méritait évidemment une refonte complète. Donc, cette refonte est dans sa phase finale. Nous attendons juste dernières évolutions réglementaires pour y mettre la dernière touche. Nous avons également l'élaboration de documents pratiques qui seront accessibles sur le site internet du ministère. Nous avons ouvert aux collectivités les inscriptions aux formations délivrées par les CVRH, donc les centres de formation de l'État. Et nous travaillons également avec le CNFPT pour qu'il adapte son programme de formation à l'attention des agents des collectivités.
Justement, qu'est-il prévu pour les usagers en termes de services offerts ?
Alors, s'agissant des usagers, on a un décret qui est en cours d'examen en Conseil d'État qui devrait être publié avant le 1er janvier, évidemment, qui prévoit la mise en place d'un guichet unique auprès du maire pour l'envoi des déclarations préalables et des demandes d'autorisation préalable. C'est exactement le même système qu'en matière d'autorisation d'urbanisme.
D'accord.
En matière d'autorisation d'urbanisme, on a le dispositif donc, du guichet unique également, c'est-à-dire que lorsque je veux déposer un permis de construire, je vais à la commune, dans la mairie de ma commune. Et après, la circonstance que la commune ne soit pas compétente en urbanisme et que ce soit instruit par l'État, la circonstance que la commune ait délégué cette compétence à l'EPCI ou qu'elle instruise à un centre mutualisé, on a parfois ça, des centres départementaux ou des centres mutualisés d'instruction, c'est neutre pour le pétitionnaire. Ils déposent à la mairie et ensuite c'est géré par les services, les différents services administratifs. Ce sera exactement la même chose, c'est-à-dire que on continuera à utiliser les mêmes formulaires CERFA que l'on trouve, alors qu'on est en train d'actualiser, mais disons que c'est le même dispositif, ils sont en ligne, on les trouve aisément, on remplit son formulaire de demande d'autorisation ou de déclaration, on le dépose en mairie et ensuite l'usager n'a pas à se préoccuper de qui finalement traitera in fine son dossier. L'idée c'est que ce soit neutre pour l'usager, évidemment.
Donc simple pour les usagers, et puis la garantie toujours d'un service de proximité. Une dernière question, qu'est-ce qui va contribuer finalement au succès de ces nouvelles règles et de cette décentralisation ?
Alors, première chose, c'est que on a, alors ça, ce sont des décrets qui sont un décret qui est sorti notamment en novembre. On a renforcé le dispositif de sanctions que nous évoquions tout à l'heure. J'avais évoqué donc des sanctions administratives et des sanctions pénales. Alors, les sanctions administratives peuvent être parfois, sont assez efficaces et puis elles sont à la main de l'autorité administrative, donc ça peut aller assez vite, mais elles peuvent être un petit peu plus lourdes, même si les mesures d'astreinte sont assez intéressantes, mais nous avons également prévu donc des contraventions pénales forfaitisées. Alors quel est l'intérêt d'une contravention pénale forfaitisée ? C'est que c'est un peu comme la contravention de stationnement. Il suffit que l'agent relève l'infraction. Alors maintenant on a des procès-verbaux électroniques. Je parlerai plus donc du carnet à souche, mais c'est vraiment l'idée. Et ensuite on a un système de sanctions au forfait qui permet en fait d'améliorer l'efficacité et la rapidité du contrôle et de garantir l'effectivité. Et on voit bien qu'il y a une réelle attente, aussi bien en matière d'extinction lumineuse ou de limitation des publicités sauvages, d'où la nécessité notamment d'utiliser les mesures d'astreinte pour faire déposer les panneaux, mais d'où aussi l'intérêt de prévoir ces contraventions, notamment lorsque les obligations d'extinction lumineuse ne sont pas réalisées. Il est quand même malheureux, par exemple, de voir que dans certaines communes, on a pu voir certains concitoyens qui grimpaient pour aller éteindre des enseignes ou autres. Je crois qu'il est préférable qu'on soit dans un dispositif où, effectivement, les agents municipaux constatent, dressent contravention, ce qui permet aux commerçants peut-être un peu négligents qui n'a pas éteint son enseigne de pouvoir le faire une fois qu'il a reçu une fois une amende. Et alors, deuxième, donc ça c'était pour le volet un peu répressif, mais surtout, et je crois que c'est vraiment le point essentiel, il est essentiel que les agents des collectivités puissent être formés à cette nouvelle compétence. Et on ne peut donc qu'inviter les communes et les EPCI à faire remonter dès à présent leurs besoins de formation au CNFPT, pour que ce dernier calibre au mieux ses propositions de formation. Nous avons des échanges réguliers avec le CNFPT. Les agents de l'État sont évidemment, on peut éventuellement les permettre à certains d'assurer des formations. On va faire de la formation de formateurs, mais je crois qu'il est vraiment essentiel que l'ensemble des collectivités passent remonter ses besoins à leur organe de formation. Et ensuite, nous, au niveau central, on va travailler avec l'organe central de formation pour pouvoir assurer une formation qui soit la meilleure possible et que tout se passe de la façon la plus simple et adaptée.
Voilà. Merci Vincent Montrieux. Voilà, on en sait un petit peu plus sur la décentralisation de la police, de la publicité, ses enjeux, ses conséquences. On vous rappelle donc à partir du 1er janvier 2024. Tout de suite, avec Hélène, on se tourne. On va passer aux questions des auditeurs.
Le MAG de l'aménagement du logement et de la nature, on répond à vos questions.
La décentralisation de la police de la publicité a-t-elle déclenché des questions, Hélène, sur le chat ?
Oui, même avec notre changement d'horaire, voilà, on a beaucoup d'auditeurs et beaucoup de questions cet après-midi. Plusieurs questions sur la possible modification législative avec les communes de moins de 3500 habitants. Alors peut-être des précisions à apporter avec une question très pratique. Voilà, dans les petites communes de moins de 3500 habitants, membres d'un EPCI non compétent en matière de PLU ou de règlement local de publicité, qui sera l'autorité de police ?
Alors, l'autorité de police, enfin, en fait, ça va dépendre effectivement de ce fameux amendement et de. Alors, est-ce qu'il. Alors, normalement, il devrait passer. Alors. je me place évidemment dans les deux hypothèses. Si l'amendement, pour une raison ou une autre, n'est finalement pas adopté, dans la loi définitive, hein, après son passage devant le Conseil constitutionnel, évidemment, on sera dans la situation où ce sera le PCI qui sera compétent et qui aura l'autorité de police. En revanche, si cet amendement passe et finit au journal officiel, ce sera la commune qui sera compétente. Après, par exemple, on peut légitimement penser que pour une petite commune, se retrouver avec cette compétence peut éventuellement poser une difficulté. Alors, bon. Après, il faut savoir que dans les communes de moins de 10 000 habitants qui sont dans une agglomération de moins de 10 000 habitants, de toute façon, la réglementation en matière de publicité fait que la publicité est très très limitée. Donc on sera essentiellement sur une problématique d'enseigne. Donc c'est un volume très faible, mais pour autant, il peut y avoir une inquiétude légitime de la part des petites communes. Donc là, il y aura soit la possibilité ensuite de voir avec le PCI s'il ne peut pas effectivement récupérer cette compétence de manière volontaire. Et puis, il y a toujours aussi la possibilité d'envisager éventuellement que le PCI puisse, ou une autre entité, en fait, puisse faire l'instruction. Parce que deux choses différentes. La circonstance qu'un maire soit compétent pour signer ou pour délivrer une autorisation ne veut pas dire pour autant que c'est, par exemple, pour prendre une toute petite commune, que c'est la secrétaire de mairie qui va devoir faire l'instruction. Ouais. C'est-à-dire que l'instruction peut être déléguée sans pour autant qu'il y ait un transfert de compétences. Donc en fait, toutes les modalités peuvent être envisagées.
Ça, c'était aussi l'objet d'une autre question. Donc, Vincent vient de répondre. On a une question aussi sur comment se passe le transfert des dossiers vers les collectivités et les groupements de collectivités.
Alors, sur ce point, nous avons, dans un premier temps, déjà adressé une fiche pratique au service déconcentré pour organiser le transfert des dossiers aux collectivités. Donc, pour les dossiers achevés, les dossiers en cours d'instruction. Et ensuite, donc, ça a permis au DDT de savoir que, voilà, comment s'organiser pour le transfert. Et ensuite, à partir du 1er janvier 2024, il appartiendra au maire, pendant la période transitoire, en fait, de prendre les décisions concernant les autorisations préalables en cours d'instruction et de les notifier aux demandeurs. Finalement, ensuite, ça dépend de l'organisation qui est mise en place. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait imaginer, par exemple, que si dans un EPCI donné, a priori, en fin d'année, il apparaît que quasiment toutes les communes préfèrent que ce soit l'EPCI qui soit compétent, l'EPCI peut peut-être prendre ses compétences dès le mois de janvier, sans attendre le mois de juillet. Ça pourra se faire sans préjudice, évidemment, d'un droit de remords d'une commune. Mais ça peut permettre de s'organiser de cette manière-là. Donc je dirais que voilà, l'organisation entre les DDT et les collectivités, on a diffusé les instructions idoines. Et après, entre les collectivités, c'est à elles de voir en fonction des souhaits de chacune des collectivités.
Alors, on a une question qui concerne la taxe locale sur la publicité extérieure. Est-ce que lorsque la police sera exercée par le président de l'EPCI, c'est l'EPCI en question qui touchera cette taxe locale ?
Alors, non, pas forcément. C'est-à-dire que le législateur n'a pas modifié les règles en matière de taxe locale. Il n'existe pas de lien entre l'autorité qui détient la compétence de police de la publicité et le fait de percevoir la taxe locale sur la publicité extérieure. Ce sont des mécanismes différents. En fait, la taxe locale, c'est une taxe facultative, non affectée. C'est la collectivité qui l'institue et qui en perçoit le produit. Et donc, les communes peuvent instituer la taxe sans condition particulière, par délai. Et les EPCI peuvent percevoir la taxe si les communes membres, en fait, ont choisi cette option. Donc finalement, il y a une liberté, en fait, dans l'organisation. Et en pratique, on constate qu'elle a plus été instituée par les communes que par les EPCI. Mais peut-être qu'à la faveur, justement, de ces transferts de compétences, la situation évoluera.
Est-ce qu'on a d'autres questions, Hélène ?
Si on peut prendre encore peut-être une dernière question. On a une collectivité qui pose la question sur comment ça va se passer dans les PNR. Est-ce que vous pouvez rappeler comment ça se passe aujourd'hui et qu'en est-il après le 1er janvier 2024 ?
Alors, donc dans les parcs naturels régionaux, alors déjà on a une réglementation qui est beaucoup plus stricte en matière de publicité extérieure. Mais après, c'est une discussion qu'on a pu avoir avec les parcs naturels régionaux. On peut imaginer, on peut imaginer que notamment la connaissance et la compétence qu'ont les parcs naturels régionaux en matière justement de qualité paysagère peut les conduire peut-être à prendre une part assez importante dans cette gestion. On peut imaginer une assistance à l'instruction, on peut imaginer effectivement de mutualiser ces compétences de manière à ce que, sans préjudice du transfert qui est prévu par la loi s'agissant de l'EPCI ou de la commune, de prévoir des modalités d'organisation qui permettent d'apporter cette plus-value qu'ont les PNR pour garantir effectivement une police de la publicité adaptée à ces territoires qui méritent peut-être plus spécifiquement, tous les territoires méritent d'être protégés, mais en tout cas c'est un cadre qui assure une protection plus organisée. Voilà.
On est au bout des questions, il nous reste encore quelques minutes, ça va, on a tout. Bon, écoutez, en tout cas, on a été ravis de vous accueillir, hein, Vincent Montrieux, effectivement, pour ce sujet plus technique hein, qui n'y paraît, finalement. Des grands changements au 1er janvier, on l'a bien compris. On aura la possibilité d'en reparler, peut-être de dresser un bilan d'ici quelques mois. En tout cas, merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi cette émission donc consacrée à la décentralisation de la police de la publicité. Vous retrouvez, bien évidemment, le podcast sur le site et l'application de Radio Territoria. En tout cas, un grand merci à Vincent Montrieux, donc notre expert du jour, sous-directeur de la qualité de vie, de la qualité du cadre de vie à la DHUP. Merci à Hélène Parmentier et on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro du MAG de l'aménagement, du logement et de la nature sur Radio Territoria. À très bientôt.
Le MAG de l'aménagement, du logement et de la nature, une émission en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. À réécouter et télécharger sur le site et appli de Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.